enfant, puis adolescente, je passais les mois de juillet en camp dans les Cévennes. Une année, pendant les descentes en canoë ou en kayak dans les gorges du Tarn, nous pouvions profiter des trous d'eau pour nous baigner. Certains gravissaient la paroi jusqu'à 8 mètres et sautaient. Il y avait bien sûr des replis pour sauter de moins haut, mais tout là-haut, près du ciel, il y avait le 8 mètres pour les plus courageux. D'en bas, je regardais admirative ces sauts de l'ange et je me disais que oui, j'aimerais aussi pouvoir y arriver. Rien n'était obligatoire, bien sûr, aucune pression extérieure, mais comme un petit challenge intérieur. Puis je me suis décidée, gravir prudemment la paroi, ne pas trop regarder en bas, se mettre en position, regarder les autres arriver, les entendre m'encourager, me dire que ça y est, je ne pouvais plus reculer. Fermer les yeux, respirer à fond, les rouvrir et sauter. Que de moments semblables à celui-là pendant notre vie, à des âges ou des degrés différents, mais toujours moments de grande décision où l'on se jette à l'eau, sans vraiment savoir ce qui nous attend. Ou parfois, en ne le sachant que trop, mais sans avoir d'autres solutions. Quand je prononce ma promesse scout, lorsque je pousse pour la première fois la porte de mon nouvel emploi, lorsque je m'engage en couple, quand après une rupture difficile, je choisis de reprendre à zéro, quand je prends la décision d'une intervention chirurgicale en connaissant les possibles conséquences, toutes ces grandes étapes de la vie, plus ou moins heureuses, sont des temps importants de décision où notre vie peut changer de direction. Et Dieu au milieu de ces décisions, où le plaçons-nous? Les réponses sont variés. Certains entendent parfaitement la voix de Dieu et le suivent. D'autres interprètent ce qui les entoure comme des signes, des balises qui indiquent le chemin. Certains encore se désolent de ne rien entendre, malgré leurs appels incessants. D'autres laissent leur vie aller au hasard. Certains encore se passent de Dieu et disent guider leur vie par eux-mêmes. Entre ces extrêmes, certains sentent dans leur vie une présence discrète. Un peu comme Job. Vous connaissez Job, ce personnage de la Bible. Job nous dit « Un message m'est parvenu comme un secret. Mon oreille aperçut très léger murmure, une absence mystérieusement présente qui guide la vie. » Et c'est le cas de nos deux héros du jour, Mardochée et Esther. Le texte ne nous rapporte aucune prière, aucun échange, direct ou même indirect, de l'un ou de l'autre avec Dieu. Dieu ne se manifeste pas dans un buisson ardent comme il l'a fait devant Moïse. Absence, mystérieusement présente. Esther et Mardochée vivent dans un monde étrange, machiavélique, où l'on peut, vous l'avez entendu, décider d'anéantir un peuple entier tout en se posant en même temps la question du manque à gagner au niveau des impôts. Au départ, il tège l'identité juive d'Esther, et cela sourira à son ascension. Ils appliquent un silence avisé qui permet à Esther d'escalader les marches du pouvoir jusqu'à devenir reine. Mardochée, dans le texte, est un homme attentif, inquiet vis-à-vis d'Esther. Il fait les 100 pas devant le palais, il essaye de glaner ici et là quelques informations, un souci tout paternel. Et en même temps, de sa part, une fermeté, l'interdiction formelle de révéler son identité. Cacher ou dire son identité? Et pour nous, que fais-tu pour assumer ton identité? As-tu un avantage à cacher ton identité de chrétien ou à rester discret sur les questions de croyance et de foi? À l'époque de la rédaction du livre d'Esther, une tendance chez les Juifs était l'assimilation à la culture grecque et à ses coutumes. Et il y avait une forte tension entre cette tendance avec des courants traditionnels qui souhaitaient garder leurs lois. Et nous, chrétiens, aujourd'hui, avons-nous tendance à nous assimiler à la culture ambiante? Nous pourrions dire la culture du profit, la culture de l'apparence. Ou bien savons-nous résister ou dire haut et fort nos convictions? La semaine passée, dans l'hebdomadaire protestant réforme, Marie Durand était à l'honneur. Née il y a 300 ans, durant les persécutions, elle a été arrêtée par les dragons du roi de Louis XIV au seul motif que son frère Pierre était pasteur. Elle est restée enfermée 38 ans dans la tour de Constance à Aigues-Mortes pour avoir refusé d'abjurer sa foi. Cette forme de résistance peut presque paraître absurde à nos yeux aujourd'hui. Nous qui partageons pas mal de choses avec nos frères et sœurs catholiques. Mais Marie Durand, comme Esther, nous font réfléchir. Est-ce que j'ai aujourd'hui des avantages à rester discret sur ma foi? Serais-je capable de l'affirmer au risque, si ce n'est de ma vie, mais au risque de moquerie ou de rejet? Dans la suite de notre livre d'Esther, le premier ministre véreux du roi, Aman, de jalousie vis-à-vis de Mardochée, persuade le roi d'exterminer tout le peuple juif. Rien que ça. Rendez-vous compte. Ce roi est quand même bien influençable. Détruire un peuple entier pour une histoire de jalousie personnelle. Encore une fois, cette décision peut nous paraître exagérée, voire même impossible. Mais, rappelons-nous, il y a tout juste 70 ans, une décision quasi semblable a été prise également. Rejeter à cause de la différence a toujours existé, et existe encore. Nationalité, couleur de peau, religion, statut social. Alors c'est vrai, plus ou moins ouvertement, plus ou moins sournoisement, mais les discriminations sont toujours présentes. Sachant bien entendu qu'il est facile de pointer du doigt l'attitude de l'autre, mais bien plus difficile de discerner notre propre tendance à exclure. Alors c'est bien connu, le différent nous dérange et nous fait peur. Mais c'est souvent en apprenant à le connaître que nous pouvons alors le respecter. Cette histoire d'Esther ce matin nous dit ceci. Et toi, laisses-tu agir les Aman chez toi et en toi? Dans toutes ces décisions que je prends au cours de ma vie, les décisions de me jeter à l'eau, il y a aussi la question du moment adéquat pour le faire. Ce serait bien d'avoir comme Esther un Mardochée pas très loin, qui nous guiderait. Mardochée suit les pas d'Esther vers le trône. Il la suit littéralement. Il se tient à la porte du palais, mais aussi symboliquement à la porte de son identité. Il en connaît à la fois l'extérieur, la façade, la reine, la femme du roi perse, mais il en connaît aussi l'intérieur. Jeune fille de déportés juifs, Mardochée en connaît ce que l'on appelle en hébreu la néfèche, c'est-à-dire sa personnalité dans son intégrité. Mardoché est un compagnon de route pour Esther sur le chemin de son accomplissement. Et Mardoché aussi qui n'hésite pas à être dur avec elle. Finalement, nous avons vu dans l'histoire, Esther prend les choses en main et décide d'aller là où Dieu semble la vouloir. Elle va rejoindre la cour intérieure du palais pour rejoindre le roi, mais aussi symboliquement, elle va rejoindre son identité la plus profonde. Esther se lève et réconcilie dans la prière et le jeûne son extériorité et son intériorité. La reine de l'Empire perse rejoint son identité de femme juive. Elle prend les commandes de sa vie et de son peuple. Mardoché n'a donc plus besoin d'être à la porte, et dans un renversement émouvant, Esther lui demande de s'en écarter en l'envoyant près du peuple. Dans ce chapitre 4, Esther illustre ici le courage d'être. Le courage d'être soi-même. En conflit de conscience entre risquer sa vie pour son peuple ou rester cachée dans la cour, elle décide, sous l'impulsion de Mardoché, de sauver son peuple en révélant au roi son identité. Et pour nous, quel est ce Père qui veille sur nos routes et qui nous permet d'affirmer ce que nous sommes? Qui est-il? Car finalement, au bout de ce chemin du courage d'être, s'il y a toujours de l'appréhension au départ, à l'arrivée, il y a rarement des regrets. Et souvent même de la satisfaction d'avoir été fidèle envers soi-même et envers son Dieu. Oui, Dieu est le compagnon de ma vie. Lui seul connaît mon intérieur et mon extérieur. Lui seul voit ma néfèche. Il guide mes décisions. Il se tient à la porte de mon identité et me permet de me révéler et de me tenir debout. Dieu, parce qu'il m'a tout donné en Jésus-Christ, me permet de m'assumer tel que je suis, à la fois pécheur et pardonné. Dieu en Jésus-Christ me donne le courage d'être. En cela, Dieu me donne la vie, la vraie.